Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, la période de Noël culmine par une fête qui resplendit comme le soleil pour illuminer le monde entier. C'est l'épiphanie. L'épiphanie vient du mot grec qui signifie « manifestation » ou mieux encore « révélation ». Ainsi, il est possible d'affirmer que l'épiphanie est la révélation et la manifestation de la lumière qu'est pour nous Jésus, le Christ de Dieu. Jésus, le Christ de Dieu, parole faite chair qui éclaire notre route. Nous fêtons donc la révélation du Dieu fait homme, du Sauveur du monde, annoncé par les prophètes et tant attendu par le peuple de la Bible. Et c'est bien pour nous faire comprendre cette nécessaire manifestation à tous les peuples que l'Évangile nous parle des mages. Ces mages, nous ne savons pas grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils viennent d'ailleurs. Visiblement, il aura suffi d'une étoile même sur parole, pour se mettre en route. L'étoile, la lumière, a guidé les mages. Et c'est un songe qui les conseille et c'est l'interprétation qui les met en route. Ces mages, ce ne sont pas des voyageurs de commerce en dogme, ni en réponse, ni des représentants en vérité. Ce sont des gens du parcours, des gens du déplacement et même du dépassement. En fait, ils sont nés de l'impatience d'une seule question. Où doit naître le roi de nos vies? Ils sont entièrement effacés derrière cette question, au point que nous ne voyons plus qu'elle. Où doit naître le roi de nos vies? Nous pouvons imaginer que ces mages sont un peu magiciens, peut-être un peu astrologues, peut-être même divins ou prêtres. Mais malgré tout ce que nous transmettent les belles histoires à leur sujet, nous ne connaissons ni leur nombre, rien ne nous dit s'ils étaient 2, 3, 4 ou plus. De même, et contrairement aux images d'Épinal qui circulent depuis le 8e siècle, ils n'ont laissé ni nom ni âge. La seule chose que nous savons, c'est qu'ils venaient d'Orient, sans savoir précisément s'ils arrivaient de Perse ou d'Assyrie ou de plus loin encore. L'Évangile évoque simplement les noms de Midian, Haïfa, Séba, c'est-à-dire des régions du Levant, d'où, ne l'oublions pas, est venu également Abraham, le premier croyant. Mais au fond, qu'importe tous ces détails qui brûlent et qui disparaissent derrière cette seule question. Où doit naître le roi de nos vies? Cette question nous est posée. Et si nous souhaitons trouver la réponse, alors soyons attentifs aux faits que nous avons à travers les mages, des sages qui ne savent pas, mais qui par contre voient. Ils voient une étoile. Et il y a longtemps que nous aussi, nous aurions dû comprendre, en écoutant ce récit, que les mages nous disent que la foi, ce n'est pas un savoir, mais que la foi, c'est un voir. Un voir qui nous rappelle d'ailleurs que le mot « Dieu » en français vient du mot latin qui signifie « le jour ». Voir Dieu, c'est voir le jour. Voir Dieu revient à voir dans sa lumière les mille et une choses qui y apparaissent. Dans le même registre, d'ailleurs, le mot « athée » signifie, dans son étymologie, être privé de vision, être privé de contemplation. Ainsi, l'athéisme, si présent dans notre monde, est une maladie des yeux. Nous pouvons fermer les yeux, nier le soleil qui brûle nos paupières, mais cela ne l'empêche en rien de briller, de se donner et d'être ce qu'il est. Voilà pourquoi, à l'instar des mages, chacun de nous est appelé à voir l'étoile et la suivre, en se demandant où naît le roi de nos vies, afin que nous puissions, nous aussi, mener en toute clarté nos propres existences dans une réalisation pleine et entière. Et si nous voulons bien comprendre comment répondre à cette question, il suffit de voir comment les mages, lorsqu'ils rencontrent l'enfant, lorsqu'ils le voient, se prosternèrent et l'adorèrent. Rien d'autre. C'est cela, la foi. Seule la foi peut découvrir, dans un enfant posé sur les jambes d'une femme, qu'il s'agit de Dieu, d'un libérateur, d'un roi qu'il recherchait. Pour voir et reconnaître le Dieu plus que haut dans la simplicité désarmante d'un enfant, il est nécessaire de savoir s'incliner, de s'abaisser, de s'agenouiller, de se mettre à sa portée afin de le voir, de le contempler, afin de le voir. Ce n'est que dans l'humilité que l'on peut voir, que l'on peut comprendre le mystère de la parole faite homme, le mystère du Verbe incarné. À l'image de ces mages, de ces étrangers, chacun de nous est invité à partir en quête, à quitter nos habitudes, parfois sclérosantes, à quitter nos certitudes, parfois rigides, pour voir, pour contempler cette étoile qu'est pour nous Jésus, le Christ de Dieu. Et poursuivre cette clarté, bien sûr, tels les mages. Et tels les mages, nous sommes appelés à contourner chaque obstacle, à défricher chaque nuage, à démasquer chaque épaisseur du ciel pour retrouver la trace de cette étoile, les yeux vissés à cette simple question: où doit naître le roi de nos vies? Comprenons bien que ces mages, comme nous, ne connaissaient pas très bien la Bible. Sinon, ils auraient su chercher l'enfant directement à Bethléem. Ils sont à la recherche du Messie et ils finissent par le trouver parce qu'ils ont l'essentiel, c'est-à-dire la foi. Et c'est cette foi qui leur a donné la force de se mettre en route pour chercher et trouver l'enfant Jésus. C'est toujours cette foi qui leur a permis, sans aucun préjugé, de s'arrêter à Jérusalem auprès d'Hérode et de ceux qui, à ses côtés, les chefs religieux, les théologiens, les pasteurs, qui, eux, par contre, avaient une solide connaissance de la Bible et des Écritures. Pour autant, remarquons que tous ces gens, malgré leur connaissance et leur suffisance, ont été surpris de découvrir que le Messie était né et ils en ont été surpris au point d'en être troublés. Ce qui est encore une maladie des yeux. Convenons qu'il y a de quoi être troublé. De réaliser que son devoir religieux, pourtant suivi à la lettre, n'est pas suffisant. Ou plutôt, que ce devoir ne parle plus, ne résonne plus, ne fait plus signe, ne fait plus sens. C'est effectivement troublant. C'est même déconcertant. Toujours est-il que les mages se retrouvent chez Hérode. Rien de plus normal, puisqu'il est le roi de ce territoire. De ce territoire de Judée. Il le restera tant que les Romains le supporteront avant de l'envoyer pas très loin d'ici, dans le sud de la Gaule, très précisément dans le Comminges. Hérode n'est pas judéen, mais il est roi. Et comme monarque d'un peuple opprimé, il perçoit en chaque visage une machination, en chaque regard une ruse, en chaque geste une menace. C'est ainsi. C'est ainsi qu'il ne peut supporter l'idée d'un quelconque prétendant, tel celui évoqué dans la question naïve des étrangers venus d'Orient. Où doit naître le roi des Judéens ? Il convoque donc les scribes et les prêtres. C'est extraordinaire de constater que de tout temps, quand il s'agit de leurs privilèges, la politique et la religion tombent toujours d'accord sur le dos de l'avenir. Et bien sûr, ces scribes et ces religieux savent, d'autant plus qu'ils sont payés pour cela. Leur métier à eux n'est pas de voir, mais de savoir. Leur emploi, ce n'est pas la route et le chemin à la suite de l'étoile, c'est le temple et le rite. C'est la loi fondée dans l'immobilité de la pierre et la règle dressée en rempart. Ils ne cherchent pas une étoile ou le lieu de la naissance du roi de la vie. Ils traquent d'abord et avant tout ceux qui ne pensent pas comme eux. Leur savoir-faire, ce n'est pas de partir, mais d'arriver, de s'installer, en mettre dans les dogmes, les définitions et les interdits. Il y a longtemps que ce qui le préoccupe, ce n'est plus le dehors, mais c'est le dedans. Et là encore, les mages nous permettent de nous rappeler que si nous vivons l'Évangile, alors nous nous retrouvons à renverser des valeurs qui ne manquent pas de provoquer des hostilités à notre égard. Tout simplement parce que du temps du monarque Hérode comme de nos jours, l'Évangile remet en cause un certain nombre de logiques auxquelles notre monde semble résigné. L'Évangile remet en cause le dieu argent, la loi du donnant-donnant, la logique de la réciprocité du mérite, l'usage de la force et de la violence, l'enfermement, le confinement, le manque de compassion et de générosité vis-à-vis des autres, dans lequel un certain nombre de nos contemporains se replient. L'Évangile est puissance de transformation et de salut pour qui le reçoit, et surtout pour qui le met en pratique. Il produit incontestablement des changements, il produit des bouleversements dans chacune de nos vies. Pour autant que nous l'accueillons et que, comme les mages, nous nous prosternions et adorions le mystère de la parole faite homme. Les mages, renseignés, quittent Jérusalem, qui reste rivé au sol, à ses prières et à ses poussières de certitude. L'avenir commence au-delà des murs. Dehors est devenu dedans. Jérusalem, depuis lors, n'est plus que la prisonnière d'elle-même. Jérusalem sait, mais n'a rien à dire. Elle a déjà refermé le temps, quoi qu'en disent les politiciens et les religieux d'aujourd'hui. N'oublions pas que 3 décennies après le récit des mages, le pouvoir politique de Hérode, le pouvoir religieux des prêtres et du savoir des scribes se retrouveront dans cette même Jérusalem pour condamner à mort le roi des rois. Et ils réussiront. Jésus est né hors de la ville et c'est hors de la ville qu'il sera crucifié. En attendant, dans notre histoire, les mages arrivent là où l'étoile s'arrête. Ils trouvent là l'enfant et sa mère. Ils s'agenouillent, adorent, déballent leur trésor et offrent leur présent. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ces mages ayant tout quitté pour le voir. Et quand ils l'ont enfin trouvé, ils s'empressent de repartir. Comme si voir Jésus ne leur donnait rien à voir. Comme si la foi n'était pas un spectacle, mais un consentement. Tout se passe pour ces mages comme si désormais Jésus était moins à voir qu'une parole. Une parole de vent, une parole de route, une parole de marche. Ce faisant, ces mages nous disent surtout que trouver Jésus, ce n'est pas être arrivé. Trouver Jésus, c'est toujours être sur le départ. Et s'ils repartent par un autre chemin, c'est que la foi ne propose jamais d'aller de retour, seulement des allées simples, toujours pour l'inconnu, toujours pour l'au-delà. Les mages repartent par un autre chemin, car Dieu, c'est celui qui fait changer de route. Dieu, c'est celui qui déroute. Ils repartent par un autre chemin, c'est-à-dire par un chemin nouveau, un chemin neuf, et donc un chemin encore à faire. Les mages, ayant rencontré le Fils de l'homme, n'ont plus besoin de rester là. Ils n'ont plus besoin de rester là en simple contemplation. Après ce temps avec le Christ, ils retournent chez eux, transformés. Mais ils retournent chez eux, comme nous allons le faire nous-mêmes dans un petit moment. C'est-à-dire qu'ils sortent de ce moment chaud et joyeux pour replonger dans leur vie quotidienne, pour une nouvelle route, par un nouveau chemin. Cette rencontre, c'est un salut nouveau, un regard neuf qui nous est apporté. C'est donc une dimension nouvelle dans notre vie ancienne. Voilà comment la manifestation, l'épiphanie de ce visage a transformé les mages et se doit de nous transformer à notre tour. C'est ça l'épiphanie. C'est se mettre en marche avec cette seule question. Où doit naître le roi de nos vies? C'est de nous mettre en marche afin de chercher les êtres les plus piétinés, les plus tenus pour rien, afin que nos sentiments, notre attitude à leur égard, soient le seul signe de notre comportement vis-à-vis de Dieu. C'est ça l'épiphanie. Puisse l'enfant qui naît aujourd'hui grandir en nous, qu'il devienne de plus en plus dangereux pour ce que nous avons de complicité avec le monde et nous transforme en signe de contradiction. Souhaitons-nous tous de pouvoir faire ce voyage dès aujourd'hui et toute l'année, comme pour tous les temps à venir. Souhaitons-nous ça? Et gardons bien tous en chacun cette question. Où doit naître le roi de nos vies? Amen.